Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Mais je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartreusine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct à 11h.
Dans Chartreuse Info.
Chartreusins, chartreusines, bonjour. Alors retenez bien la date du jour, on est le 22 janvier et cette date va rester marquée dans nos mémoires puisqu'aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir... Et oui, Serge Papagali. Et oui, il est bien là. Je l'ai devant moi en chair et en os. Oui. Heureusement, surtout en chair.
En chair surtout.
Oui. Et c'est normal puisque Serge, c'est avant tout l'appétit de la vie, de la bonne bouffe, des boissons locales aux plantes.
Même des boissons non locales, à vrai dire. Mais bon, c'est vrai que les boissons locales, il y en a d'autres. Il y a des boissons dans le coin, je ne savais pas. On va en parler tout à l'heure, je pense.
Mais je parlais de la tisane, en fait. Hein.
La quoi, là ?
La tisane.
C'est quoi ça faire de la tisane? Je connais pas ça.
Et c'est l'appétit du rire aussi. Alors Serge, c'est aussi Aimé Maudru, Guéthenoc et bien d'autres. Alors pour ça, je vous propose aujourd'hui, chartreusin, chartreusine, de faire connaissance avec l'être humain qu'il y a derrière tous ces personnages cultes.
Il est humain, effectivement.
Oui. Et là, je passe pas de la pommade, je le dis sérieusement.
Bon.
Oui, parce que j'en ai une preuve concrète. Serge a tout de suite dit oui quand Radio Couleur Chartreuse lui a demandé de prêter sa voix pour le Téléthon. Par exemple.
Oui, absolument, je prête ma voix. Je ne veux pas la louer quand même, c'est pas possible. Bon, je prête ma voix, effectivement.
Oh bah.
Quand la cause en vaut la peine, quand même. Bon, je ne prête pas ma voix n'importe où.
Bon, ben, j'espère bien. Et pour commencer, je vais te poser une question super difficile.
Attention.
Ouais.
Question appelle une réponse.
Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé la réponse au cas où tu trouves.
Ah bon, d'accord, encore.
Alors, comment est-ce que tu te définirais en quelques mots?
Ouh là là, oui, c'est une question effectivement à laquelle on peut répondre en 10 secondes, quoi.
Voilà.
Oui, d'accord. Ben, je vais essayer d'en prendre 15 alors. Bon, comment je me définirais, moi, en tant qu'humain? Déjà, se définir en tant qu'humain, c'est déjà une définition, parce que moi, je considère tout de même, je sais que c'est peut-être pas politiquement correct ce que je veux dire, mais qu'il y a des tas de gens sur Terre qui sont pas forcément des humains.
Tout à fait.
Donald Trump est-il un humain? Je pose la question, j'en suis pas convaincu, moi.
Bah, je l'ai pas encore invité, je le connais pas perso.
A human bean, alors il est surtout bean, lui, c'est haricot plutôt, mais il est pas tellement bean, ça veut dire haricot en anglais.
Ah oui, mais tu es bilingue, tu dis.
À part l'italien, hablo espagnol, speak English, sprechen die Deutsch. Non, mais on va faire ça en français. Donc déjà, être un humain, déjà, c'est fabuleux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Être un humain, ça veut dire qu'il faut aimer les autres. Pas tous, il y a une liste de cons, forcément, oui. On n'est pas obligé d'aimer. J'ai une liste chez moi, on va dire, oh, aimons-nous les uns les autres. Oui, virgule, sauf les cons. Alors il y en a quand même deux ou trois. Heureusement, la Terre est peuplée de gens intelligents, lumineux, humains, humanistes, fabuleux. Bon, heureusement, mais il y a quand même 3-4. Alors on va me dire, oui, toi tu dis ça, mais toi aussi tu es un con. Alors ça, on est tous le con de quelqu'un d'autre, donc moi je suis d'accord là-dessus. Donc en tant qu'humain, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. En tant qu'humain, je suis un être qui aime bien les autres, qui est plutôt dans l'empathie. Je cherche l'empathie avant de trouver éventuellement l'antipathie. Je cherche l'empathie d'abord, voilà. Il y en a qui ne la cherchent pas tout de suite. Bon, Trump, parce que j'aime bien Trump. On va souvent parler de Trump, là. C'est comme il est de la région.
Mais je croyais que tu ne voulais pas parler politique.
Ah non, mais Trump, ce n'est pas de la politique. Non, ça n'a rien à voir, c'est de la clownerie. Ça rien à voir. D'abord, ça s'appelait Donald, excuse-moi, mais bon, ça, déjà, ça fait honte. Moi, ça me ferait honte, je me casserais déjà. Mais bon, en plus, bon, il est coiffé comme un poney. Donc, non, mais c'est vrai, sans déconner, il s'est recollé la queue derrière devant. Enfin, il est peigné au jaune d'œuf. Non, mais bon, c'est quand même, on peut en parler, c'est un clown, c'est pas un être humain, mais ça, on a, voilà, être humain, c'est aimer les autres, c'est être généreux. Moi, quand on me demande ma qualité, je dis générosité. Quand on me demande mon défaut, je dis générosité également. J'ai souvent péché par excès de générosité. Je me suis fait avoir dans la vie par excès d'envie d'être avec les autres, etc. Voilà. Et tout ce qui est convivial m'intéresse, voilà, c'est ça, comme être humain. Donc le théâtre, c'est la convivialité. La table, c'est la convivialité. Il y a des tas de choses qui sont conviviales.
C'est pour ça que moi, la définition que j'avais trouvée, c'était un humaniste hédoniste anti-manichéiste.
Anti quoi?
Manichéiste.
Ah oui, alors ça oui, je suis tout à fait d'accord. La vie n'est pas noire, c'est ça qu'on veut dire, la vie n'est pas noire ou blanche. Mais ça, on le croit quand on a 20 ans, quand on a 20 balais, en général, on a des certitudes, quoi. On est certain des trucs. C'est bizarre parce qu'on devrait être certain quand on est vieux et douter quand on est jeune. C'est exactement l'inverse qui se produit. C'est quand on est jeune à 20 ans, tu dis tac, tac, les méchants, les gentils, c'est blanc, c'est noir. Et puis au fur et à mesure de l'expérience de l'existence, tu te rends compte que la vie n'est ni noire ni blanche, qu'elle est grise. Voilà. Avec des tas de nuances de gris, de grey. Hein, voilà, d'érotisme mis à part, bien évidemment. Donc on s'aperçoit qu'en vieillissant, on est plein de doutes. Et quand on est jeune, on est plein de certitudes souvent, comme certaines personnes qui cassent, par exemple des vitrines actuellement, qui cassent des tas de choses comme ça. Et c'est souvent des personnes qui, je partage une partie de leurs idées, mais des personnes qui sont jeunes, donc qui n'ont pas de doute. Dès qu'ils auront quelques doutes, l'intelligence va venir.
Et j'ai trouvé une super phrase qui illustre ça. C'est « Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin ».
Ouh là là, ça j'y pense. J'ai répondu trop longuement, je pense déjà j'y pense et puis on y revient.
Et donc Serge Papagali, est-ce que c'est un pseudo ?
Alors ça c'est très marrant, c'est une question qu'on me pose encore souvent, enfin de moins en moins tout de même, ça commence à faire quelques années que je sévis, mais on m'a posé cette question encore, on vous aime bien, on voit tous vos spectacles, ça c'est bien, mais pourquoi vous vous appelez Papagali ? On m'a demandé plusieurs fois, sous-entendu, pourquoi vous avez choisi un nom aussi con quoi, pour parler sur scène ? Alors je leur réponds, mais parce que c'est le nom de mon papa. Ah, excusez-moi, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'avais un nom déjà assez artistique comme ça pour ne pas en choisir un autre. Papagali, bon, ça veut dire perroquet, vous avez compris, en italien, au pluriel, ça ne s'écrit pas exactement pareil. Hein. En italien, c'est PA, 2 PA, bon, j'ai... Mais ça veut dire Papagali, ça veut dire perroquet au pluriel, et vous voyez, je n'arrête pas de parler. Donc c'est bien une preuve qu'il y a une similitude entre les noms et les êtres humains, des fois, sans le faire exprès.
Ah, mais moi, j'adore ce nom. Hein. Quand j'étais petite, il y avait un ami de mes parents qui s'appelait Paporello et ça me faisait rêver, ce nom.
Il m'avait fait peur. S'il m'avait dit qu'il s'appelait Papagali, comme la famille, alors sur ce plan-là, on est unique au monde, vous l'avez bien compris. Hein. Les gens qui s'appellent Papagali ont forcément un lien avec nous parce que c'est un nom tellement particulier. Si vous appelez mon grand-père maternel, il s'appelait André. Alors lui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Des André, il y en a. Bon, mais Papagali, en général, bon, si vous m'aviez dit, étant donné que quelqu'un s'appelait Papagali, ça m'aurait un petit peu surpris, ou alors on est peut-être cousin, allez savoir, je sais pas. non mais moi c'est papa Sergio Papagalli, je m'appelle Sergio Papagalli, oui.
À la base c'est Sergio,
je peux me dire Sergio Adalberto Paul Attilio. Oh. Donc c'est Serge et mes parents qui ont choisi Fiocin, parce que moi à l'époque j'étais trop petit, donc parce que je venais de naître, donc c'est eux qui ont choisi mon prénom. Adalberto c'est le nom de mon grand-père italien, Paul celui de mon grand-père français. Et Attilio, celui de mon nom, c'est intraduisible en français, Attilio, je ne crois pas que ça existe l'équivalent. C'est mon oncle, lui, en Italie, qui était un peu comme son grand-père pour moi. Voilà.
Et tu en es content de ton prénom ?
Oh tiens, c'est une question que je ne me suis jamais posée. J'aurais bien aimé m'appeler Brad, si je m'étais appelé Pete, par exemple, bon, ou George.
Pas Donald,
si je m'appelle George, il faut m'appeler Clooney à côté. Non, alors, non, Donald, non. C'est Donald, je refuse. Mickey et Donald, ils ont bien fait de ne pas choisir ce prénom-là, parce que là, franchement, ça ne pourrait pas ranger. Serge, ma foi, c'est peut-être un prénom. Alors, je ne sais pas, il y a un concours des prénoms modernes, des prénoms. Il y a des gens qui font des listes, des noms à la mode, des noms.
Oui, ça se donne plus trop, Serge.
Ah, je sais pas.
C'était alors, en 1952, il y a eu le pic, et depuis, ça
descend. Il y a eu le pic,
oui. Voilà.
Je fais partie du pic, je suis vraiment désolé, mais bon, j'aurais bien faire partie du pic de 1985, mais bon, je suis né un peu avant.
Et donc, si on regarde l'étymologie de Serge, il paraît que Serge n'aime pas les artifices et la vie mondaine. Est-ce que tu aimes ça ?
Ah, ça, c'est une vraie définition.
Oui,
vraie,
oui,
vraie.
Tout
ah bon,
à fait.
Ah bon, alors ça, comment fait-on savoir ? Eh bien, écoute, il se trouve qu'effectivement... les artifices, alors là, on s'en rend compte quand on me connaît un petit peu. Je suis plutôt quelqu'un de primaire dans le bon sens du terme et de direct. Donc, alors là, j'ai les artifices, j'ai horreur de ça. Et la vie mondaine, j'avoue qu'alors là, j'ai eu à la côtoyer pas mal quand j'étais souvent à Paris à une époque et tout. On terminait vite dans les bistrots avec les potes et les copines normales et normaux. Donc, non, je suis pas très vie mondaine. J'ai dû mettre la cravate 3 fois dans ma vie. Donc, je suis pas très, très très, je suis plus proche du rock'n'roll que ce qu'on pourrait faire, musique mondaine, qu'est-ce qu'on pourrait choisir, je ne sais
classique.
Pas.
Hein? Le classique ?
Ah oui, mais non, mais il y a du classique que j'adore. Alors, si je dois choisir entre le blues, le rock ou la musique classique, je suis tout de suite du côté du rock, ça c'est clair. Mais ça, c'est un problème de goût, on ne peut pas en discuter. Après, j'adore la musique baroque, par exemple, j'adore, il y a des musiques classiques phénoménales. Mais j'en parle dans mon spectacle, il y a certains morceaux de musique classique quand même. Mahler, Gustav Mahler, par exemple, c'est très très bien, mais bon, c'est vrai que, comme son nom l'indique, quand même, des fois, au bout de deux heures, on a commencé un peu à... On a envie de crier « Grosse Mahler, ya !» Non, mais je déconne, j'embrasse tous ceux qui aiment Gustav Mahler, qui est un immense auteur, bien évidemment, mais j'ai tendance plus facilement à m'endormir durant un concert de Gustav Mahler que durant un concert de Queen, par exemple. Mm.
Oui. Et il paraît que les Serges, il leur faut des compagnes naturelles, douces et cultivées. Est-ce que tu as trouvé ton bonheur ?
Alors là, c'est on parle de ma vie sexuelle depuis mettons ces 50 dernières années.
Oui.
Ah la vache, bon, l'émission dure combien ?
Une heure.
Non, j'ai trouvé. Alors douce, on peut pas. Ma femme, puisqu'on parle un peu pas signe astrologique, mais enfin on parle un petit peu comme
tout,
ça,
ouais.
truc ésotérique.
Ouais.
Elle est Lion, ascendant Lion, donc ça tabasse pas mal quand même. Bon. Non, mais j'ai trouvé quelqu'un. En revanche, on est ensemble depuis 50 ans, hein, donc c'est quand même.
C'est beau.
C'est pas rien. Bon, je sais pas si c'est beau.
Respect.
Peut-être, ouais. Dans le milieu théâtral, dans le milieu artistique, c'est les comédiens également, milieu artistique. Particulièrement. Mais j'ai trouvé en tout cas une femme qui m'a suivi dans toutes mes folies et mes bêtises. Alors qui m'a suivi ou qui m'a même précédé parfois, alors je veux dire par là, voilà.
Ah.
Et ça c'est... Ben oui, c'est-à-dire que on va parler peut-être un petit peu, je m'en excuse auprès des auditrices, auditeurs qui nous écoutent, mais je suis un garçon qui aime bien, je suis plus proche de Depardieu que de Lucchini, vous avez compris, dans ma façon de vivre. Donc j'aime bien la vie au sens large du terme, vous l'avez compris. Bon, si je vous disais que je n'avais pas fait d'excès dans ma vie, je serais un gros menteur, comme je ne suis pas menteur, sauf par politesse, parfois, quelquefois.
Oui,
quand même.
Il le faut,
bon,
des fois.
Jamais je dirais à M. Trump qu'il est con, peut-être par politesse, ça, bon. Donc, mais je le pense profondément. Mais je veux dire, j'ai trouvé une femme avec qui j'ai pu faire des folies. Alors, je ne peux pas vous dire toutes les... D'abord, parce que c'est ma vie privée, mais qu'est-ce que c'est que ça faire, là ?
Non, mais c'est la définition de l'amour.
C'est une radio sexuelle, radio chartreuse ou quoi ? Bon, radio couleur chartreuse, non. Non, mais je veux dire que quand on a fait la fête ensemble, parce que j'ai tellement rencontré d'amis et de copains. Il y a des clichés comme ça, vous savez, où le mec, il est là, il dit, ah, c'est le mec, c'est censé être le mec qui dit, allez, on va se boire la dernière, etc. Puis c'est censé être la femme qui en face fait, oh non, viens, on rentre. C'est censé, ça c'est le cliché, quoi. Bon, alors ça arrive des fois, évidemment. Hein, puis des fois, c'est presque l'inverse, moi. Bon, presque. Donc, vous voyez, donc je veux dire, et c'est peut-être pour ça que. C'est peut-être pour ça qu'on a ce long parcours ensemble, c'est parce que chaque fois que je dis, allez, on fait une folie, on y va. On fait du théâtre. On décide de faire du théâtre professionnel, du jour au lendemain. Je vous parle de ça en 1922, les Allemands n'avaient pas attaqué encore. Hein, bon. Écoutez, non, c'est une blague, mais 1922, hein, parce que je vois qu'il n'y a aucune réaction. Là. Je précise que c'est
non, mais ils sont trop jeunes.
Et... Ouais, non, 1922, je n'étais pas né, je le précise quand même. Hein. Bon, d'accord, bon, voilà. Donc, ok, on y va. Donc, je n'ai pas trouvé. Alors. Ma femme, c'est pas toujours la douceur même, c'est pas ça. Bon, mais elle est plutôt battante, on va dire. Bon, mais j'ai trouvé une femme avec qui on a pu faire du. J'allais prendre une métaphore du cheval au galop ensemble. Ça n'est qu'une métaphore. Hein. Bon, en même temps, voilà ce que je veux dire. Et c'est pas toujours le cas. On a eu trois enfants. Souvent, les couples quand ils ont un enfant, boum.
Oui.
Ça devient une espèce de truc où le gosse, ça devient... T'as un gamin au milieu, on ne fait plus rien à côté. En général, ça s'écroule au bout de 3-4 ans. Bon, pas toujours, mais souvent. Donc nous, on a fait trois gosses, on a été au resto, les gamins, ils dormaient sur deux chaises à côté, quoi. Donc on rentrait, c'était 2 heures du mat. C'est une honte, on est des parents indignes, je sais. Mais seulement j'ai trois fils avec qui j'ai jamais eu aucun problème. Avec qui on a des rapports fabuleux, dont deux sont artistes, et voilà, vous voyez, donc forcément, je veux dire, l'alcool, ça fait des beaux vieux, en fait. Quand on voit Mick Jagger, j'ai dans un de mes spectacles, j'ai chanté récemment avec des musiciens dans la culture, on fait pas mal de rock, de trucs comme ça, je dis, écoutez, quand on voit les mecs de Led Zeppelin, quand on voit le Plant, le Page, pour ceux qui connaissent le Mick Jagger et compagnie, à 75 balles, les mecs, des années de drogue, ça fait des beaux vieux quand même. La médecine nous ment. Bon. Non, mais c'est pas vrai, je déconne, à la drogue, c'est de la merde, attention, hein, faut pas dire ça. Surtout dans la Chartreuse, où il y a pas mal de plantes, faut faire gaffe.
Bah, c'est Gainsbourg qui disait que l'alcool, ça conserve.
L'alcool conserve les fruits, la fumée conserve les viandes, je sais. Mais le problème, c'est que lui, ça lui a pas trop réussi quand même.
Non.
À partir de 3 litres par jour, c'est pas bon, si vous voulez.
Oui,
quand
oui,
même.
C'est ça, il faut c'est rester dans bon. Un juste milieu quand même.
Moi, je pense, oui. Je pense, restons raisonnables là-dessus.
Bon, on va parler un petit peu spiritualité. Est-ce que Serge Papagali...
Quand même.
Oui. est-ce que tu es un homme pieux ?
Ben, j'aime bien dormir parfois. Oui, c'est vrai. Oh, il fallait que je la fasse, celle-là, que je dise. Moi, je suis obligé. Bon, en même temps, la perche,
je la connaissais pas.
J'aime bien dormir parfois. J'aime bien faire des tas de choses, mais ça, bon, once upon a time. Mais non. C'est-à-dire que je suis un homme très attaché à la spiritualité, aussi paradoxal ça puisse paraître. Oui, c'est-à-dire que la spiritualité, pour moi, c'est. On parle de minutes sérieusement
pas, oui, là, oui.
La spiritualité, parce qu'ici, il faut dire des conneries, j'en dis. La spiritualité, pour moi, c'est la question. On en parlait récemment. C'est la question, c'est de se demander des questions. Dans tous mes spectacles, je parle de l'infini. Quand on regarde l'infini, comme ça, même quand on est un peu bourré le samedi soir, des fois, avec un verre de rosé en plastique à la main, vous savez, bon, les verres qui font cric-cric-cric-cric, abominable, qui se cassent, t'as tout le rosé qui tombe par terre. Bref, c'est une horreur. On ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça. Quand on regarde l'infini, les milliards d'étoiles qui nous entourent, si on a un cerveau à peu près complet, dans la boîte crânienne, c'est pas le cas de tout le monde, mais si on a un cerveau à peu près complet, on est obligé de se poser quand même des questions. On sait que quand on part dans une direction, on ne s'arrête pas. En plus, on ne peut pas dire le contraire, puisque si on dit, je dis ça dans un spectacle, j'aurais dit, mais c'est pas possible, l'infini ne peut pas être infini, il y a bien un mur, à un moment donné, qu'est-ce que tu racontes ? Après le mur, il y a quoi ? Donc, de toute façon, le gars, on est obligé de croire en ça. Donc, il y a une question métaphysique, pour le coup, qui est phénoménale. Donc, on est obligé d'avoir envie d'être dans la spiritualité. Tout homme et femme intelligent doivent avoir. Alors après, ça c'est fin de cette phrase-là. Après, il y a ce qu'on appelle les dogmes. Les hommes et les êtres humains ont essayé, pour vaincre leur terreur, leur peur de l'infini, ils ont essayé d'expliquer les choses, sans savoir absolument, d'expliquer. Alors tout le monde a raison. C'est-à-dire que les gens, là, moi je suis dans le doute, donc la spiritualité. Eux, ils sont dans les certitudes.
Voilà.
Certitudes, quelles que soient les religions monothéistes, on les citera, il y en a trois ou quatre, il y en a trois même d'ailleurs, on pas à peine les citer, n'en ont pas dans ce monde-là. Ces gens-là, eux, ils n'ont que des certitudes. La certitude de ci, la certitude de ça, la certitude de là. Bon, ils ont bien de la chance, je veux dire, mais moi je crois que la certitude, ça peut être parfois le début de l'imbécilité, il me semble. Bon. Et que la question, le doute reste le début. La philosophe, il doute. La philosophe, il n'a aucune certitude totale. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, moi je suis profondément dans le besoin de spiritualité. L'infini me questionne, l'infini m'interroge, mais je n'essaie pas d'apporter des réponses dogmatiques. Je n'appartiens à aucun dogme, et d'ailleurs, pour si on en revient à ma culture, enfin, moi, je suis d'origine forcément italo-française, donc chrétienne, on va dire, culturellement, bon, même si je suis agnostique, bien évidemment, je veux dire, on lit dans mon spectacle, dans le dernier spectacle qui tombe, pourquoi ? Parce qu'on termine sur la Genèse qui est l'explication de la création, je ne parle pas de la Bible, de la vie de Jésus, je parle de la Genèse. Quand on lit la Genèse, je veux dire, les bras nous en tombent, c'est-à-dire, c'est écrit pour des imbéciles, par des imbéciles, c'est pas possible, on peut pas imaginer. L'explication qui était, c'est écrit noir sur blanc dans la Genèse, c'est comment Dieu a créé l'homme. Il a pris de la terre glaise, il a mélangé la salive divine, pouf, je fais comme ça. Là, je peux pas enlever la radio.
J'ai
marqué ça. Voilà, il a mélangé et hop, Adam est apparu. Dans mon spectacle, j'ai dit au début, il avait une allure un peu de gnocchi trop cuit, comme ça. Parce que, bon, il y en a qui sont restés à ce niveau-là, d'ailleurs. Tiens, il y en a un, on n'en a pas parlé encore. C'est en Amérique. Donald Trump, ça peut, je crois. il n'est pas complètement fini. Bon. Après, on tourne la page. Après, Adam et Ève. Adam est mort à 934 ans. Bon, d'accord. C'est à l'époque, la vie était très saine. Mais c'est marqué. Non, mais c'est marqué. Il faut lire la Genèse. Parce que moi, je parle de choses que j'ai lues. Donc, Ève, elle est morte à 800, je ne sais pas combien. Bon, bref. Son dernier gosse, elle a dû avoir par césarienne. Parce qu'à mon avis, quand même, à cet âge-là, quand même, c'est un peu difficile. Passons. Donc, déjà, vous lisez ça, vous dites, bon, la vie est saine. Les mecs mangeaient que des pommes à l'époque, peut-être. Je ne sais pas. Bon, bref. Ils ont eu des enfants. Donc, après, vous tournez la page. Sept, Adam, je ne fais pas la liste. Après, vous tournez la page. Et là, Seth a créé telle ville, machin. Tu dis, mais attends, ils ont peuplé la terre. Tu dis, mais il y a une page, ils ont oublié une page au milieu.
Ouais.
En fait, c'est les frères et les sœurs, donc, si on suit la Genèse, qui ont fait l'amour ensemble pour peupler la terre. Parce que moi, je ne vois pas d'autre solution. Ça explique pas mal tous les débiles consanguins, quand même, qui sont dans certains endroits actuellement. Quoi. C'est-à-dire, si on suit la Genèse à la base, ce sont les frères et les sœurs qui ont couché ensemble pour peupler la terre. Et puis d'abord, pour peupler la terre, il faut quand même bosser. Il faut y aller. Hein. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais là, il faut y aller. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on est obligé de se moquer un petit peu gentiment, avec tendresse, parce qu'après tout, chacun a besoin, se sert de la canne dont il a besoin. besoin pour marcher, se sert du médicament dont il a besoin. Voilà, oui. C'est obligé. Mais n'empêche que bon, on est obligé quand même de sourire un tout petit peu quand même. Adam est mort en 1931, dont elle a eu ce dernier gamin, elle avait 830 ans. On tourne la page, les gamins ont peuplé la terre. Putain, mais tu te dis, attends, mais il y a un petit problème là.
Mais donc, si je comprends bien, avant de t'endormir le soir, tu invoques pas Saint-Serge?
Oh, je n'invoque aucun saint. Si, mais ça ne s'écrit pas pareil, les saints que j'invoque. C'est une autre forme d'écriture.
Oui, parce que...
Il n'y a pas de thé à la fin, en tout cas.
Saint-Serge, est-ce que tu sais que son meilleur ami, c'était Bacchus?
Ah, toi, je découvre complètement. Je vais apprendre sur mon nom des choses, alors que je connais Bacchus. Oui. Alors, Dionysos et Bacchus sont les dieux du théâtre. Alors ça m'intéresse bien, oui,
voilà.
Au départ. Oui.
Et Bacchus, il était particulièrement connu pour...
Dans un verre en verre.
Wow,
on m'amène un café et un verre de, je sais pas, de gnôle, c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est?
Un rosé dans un verre en verre.
Oh la vache, un café et un rosé. Donc j'explique pour les gens qui nous écoutent.
Le rosé, c'est après l'émission. Hein.
Alors si c'est un rosé qui vient de la Chartreuse, par contre, là, ça va être un petit peu aproguin, non? Je sais pas. Alors, je vais goûter comme étant en pleine spiritualité. Je goûte.
Ouais.
Non, mais il n'y a pas tel fil, le Spiritus Sancti.
Non, mais bon, Saint-Serge, il s'en est bien tiré parce qu'il a été juste. Décapité.
Ah, c'est un rosé sucré, pardon, oui.
Il a été juste décapité. Parce que les martyrs, des fois, ils avaient des fins terribles. Lui, il a été juste décapité, donc c'est plutôt cool.
Ah bah, j'ai eu mal à la tête uniquement des soirs, mais jamais été...
Et Bacchus, lui, il a été flagellé, c'est déjà moins sympa. Hein.
Ça dépend. C'est ça, backroom, je ne sais pas, rien. Flagellé comme habillé en cuir, Bacchus habillé en cuir,
non,
et tout, je ne vois pas.
Fouetté,
j'ai compris.
Ouais.
Je ne vois pas bien Bacchus, vu son physique, habillé en latex, je ne vois pas bien, pas possible, à mon avis. Enfin, bref. Mais écoute, j'apprends effectivement que je m'a coupé la tête, enfin, au sein qui a mon nom, et que mon gros copain Bacchus a été flagellé. Écoutez, moi, je ne sais pas, mais.
Et ce n'est pas fini, parce qu'on va passer à l'astrologie, Manon.
Ah.
Alors, sais-tu quel signe tu es dans l'astrologie chinoise?
Ah, chinoise? Ah, chinoise, je suis du cochon, moi. Oui.
Cochon de feu?
Ça ne m'étonne pas, ça.
Voilà.
Ouh. Grosse cochonne, ça ne m'étonne pas du tout, ça.
Ah non, mais moi, je pense à la nourriture, le cochon grillé, le lard, tout ça.
Ah, merci, ça fait plaisir. Ben tiens, je te dis bonjour en cochon. J'ai même parlé du cochon, tu vois, c'est quand même grave.
Non, mais sinon, tu es du signe du poisson. Le poisson, c'est mystère,
oui.
Intuition, insaisissabilité. Est-ce que c'est vrai, ça?
Hein? Quoi?
Être insaisissable. Non, tu n'as pas l'air, hein?
Oh, écoute, on arrive à me saisir. Après, c'est vrai que je fais 100 kilos, donc il faut quand même me tenir, mais on arrive à me saisir. Intuition, oui, j'ai beaucoup basé ma vie sur l'intuitif, ça, c'est vrai. C'est quand on parle de mon métier, je vais dire une chose qui va me faire encore, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre à être artiste, je ne crois pas.
Non.
Je ne crois pas. On l'est et après on muscle quelque chose dont on dispose. Donc c'est d'abord basé sur l'intuition. L'intuition, on ne peut pas expliquer, par exemple, moi qui suis plus dans le théâtre d'humour pour l'instant, on ne peut pas expliquer à quelqu'un comment être drôle. La preuve, il y a des gens qui racontent une blague nulle, le mec ou l'autre nana, elle la raconte, génial. Une nana, j'ai beaucoup de gens comme Muriel Robin ou Foresti pour parler de l'humour. Ces nanas n'ont pas appris à être drôles. Elles ont le feeling. L'humour, c'est comme le rythme en jazz. Enfin, c'est un truc qu'on n'apprend pas. Bon, donc, je suis un intuitif. Oui, j'ai un intuitif. Enfin, c'est la suite qui me fait peur parce que sinon, il y a d'autres trucs.
Est-ce que tu es superstitieux? Superstitieux.
Ah, j'avais compris en deux mots. Super, virgule. Tissueux, je sais pas ce que c'est, tissueux, j'ai jamais été tissueux dans ma vie. Oh non, pas vraiment, je crois pas que c'est écrit, je crois pas à Mektoub, je crois pas que la vie soit écrite, je crois pas, ça n'existe pas. On écrit sa vie soi-même, donc si on doit choper une saloperie, on la chopera, si on doit pas la choper, on la chopera pas. Si on passe sur une échelle, si c'est le fait de passer sous une échelle, il suffisait pour que des choses se passent, on le saurait depuis longtemps, je veux dire. Bon, non, en revanche, le hasard, oui, guide le monde, ça c'est sûr et certain, oui. Là, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. En plus, je suis poisson ascendant scorpion, quand même.
Wow.
Donc j'ai un mélange de deux choses contraires. Je dis ça parce que ma maman...
Ça explique pas mal de choses.
Merci. Ma maman, dans le temps, était passionnée par... Alors, rien à voir avec les trucs qu'on lit sur les journaux, là, vous savez. Là, aujourd'hui, vous allez avoir de la chance, mais demain, vous n'en aurez pas, on s'en fout. Mais elle était passionnée par les trucs, la carte du ciel, enfin. Un truc comme ça. Elle fait faire ma carte du ciel quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, je me souviens plus. Et d'ailleurs, elle m'avait dit bien longtemps après, la dame qui avait fait cette carte du ciel, c'est très surprenant, parce que moi, je suis pas très... Croire ou pas croire à ça, je ne sais pas. Je me pose une question, je suis encore dans le doute. Elle avait dit des choses très surprenantes, parce qu'elles me sont pratiquement toutes arrivées, quoi. Elle avait dit qu'elle me voyait sur scène devant des gens. J'avais 11 ans quand même. Hein. Bon, hein. Donc, elle ne me connaissait pas. Elle ne m'avait jamais vu. Donc, elle ne pouvait pas savoir ça.
Mais est-ce que depuis tout petit, tu as parlé tôt ? Est-ce que tu étais très bavard petit ? Est-ce que tu étais du genre à animer les fêtes de famille ?
J'en ai aucun souvenir. Et j'ai aucun souvenir de moi petit. Première fois, je me vois petit. Je fais quoi ? Je fais du cheval de bois, je crois, dans un jardin. Donc, j'ai aucun souvenir ancien. Non, non, mais contrairement à l'école, comme on dit, non, j'étais plutôt du type la petite école. Je parle du type renfermé. Souvent, les gens, si, mais les gens qui vivent, souvent les acteurs, pas tous, mais une grande partie des gens que je côtoie à Paris, j'en connais beaucoup, bien évidemment, dans le milieu des humoristes, par exemple, sont souvent des gens. J'ai eu la chance de rencontrer Coluche, de manger avec lui, d'être chez lui. C'était un immense angoissé, par exemple. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'était pas forcément drôle dans la vie.
Oui, c'est ça que je voulais te demander. Il paraît que, justement, il y a plein de gens qui manient bien l'humour, qui sont des boutons de train, et quand ils rentrent chez eux, et ben en fait, c'est des portes de prison, ils sont un caractère exécrable.
Ah non, alors moi, porte de prison, non, ça je pourrais pas, non, c'est impossible. Non, mais je vais pas être. Alors je vais faire un truc qui passe pas à la radio, c'est-à-dire je vais faire une gueule. Mmh. Excusez-moi, on n'est pas filmé ici, bon, hein. Je vais pas être comme ça. Toute la journée.
Non.
Bon, c'est pas possible, j'ai l'air con déjà, naturellement, je vais pas en rajouter. Donc. Non, mais ben, en revanche, je suis plutôt du type, voilà, toutes ces questions, c'est intéressant ce dont tu me fais parler, puisque je parle de choses, comment dire, on interviewe rarement un acteur ou, entre guillemets, un humoriste sur des choses peu légères, donc je ne suis pas intéressé par les choses légères, voilà ce que je veux dire, je suis plus intéressé par la philosophie, la religion, la spiritualité, contrairement à ce que mon personnage pourrait croire, mais ça va très bien de pair. Avec, on en parle avec Bacchus, on peut très bien adorer le vin, ce qui est mon cas, adorer la table, on va en parler, j'imagine, ce qui est tout particulièrement mon cas. Ça se voit un peu moins maintenant parce que j'ai perdu 10 kilos, mais quand même,
ah oui.
À l'époque, ça se voyait, ben, j'étais à 110 de l'autre côté, donc je suis à 100 maintenant, je ne suis pas une danseuse contemporaine non
plus. Et comment tu as fait ? Est-ce que tu as une recette là pour les auditeurs ?
Bon, la recette, c'est faire un peu gaffe, c'est-à-dire.
Ah bon ?
Mais, non, mais attends, c'est le problème, simple. C'est que quand j'avais, si je vivais aujourd'hui comme je vivais quand j'avais 30 ans ou 40 ans, je serais mort. Bon, terminé. Alors, de par Dieu, je le salue. J'ai eu la chance de tourner 3 jours avec lui. Je ne sais pas s'il continue comme ça. Je ne sais pas comment il fait, parce qu'on a le même âge. Donc, je ne sais pas comment il fait. Mais à mon avis, il ne doit pas continuer à vivre maintenant, même s'il fait quand même quelques folies de son corps. Ça se voit un tout petit peu, quand même. M'excuse. Hein. Bon, quand on le revoit dans les valseuses, et là, on a compris qu'il y a une petite différence, quand même. Mais j'aime beaucoup ce type. Hein. Donc, pour ce qu'il est. Même pour ses excès, on va dire. Parce qu'il en a. Mais je veux dire, bon, c'est évident que si je vivais qu'aujourd'hui, comme j'ai vécu quand j'avais 30, 35, 40, 45, même encore 50, je serais pas à la radio en train de parler, là, je pense pas. Je peux pas tout dire non plus, quoi, parce que c'est un peu gênant. Mais quand même, on a vécu d'une façon un peu excessive.
Bon, et ben on va faire une petite pause pour se reposer, une pause musicale.
Enfin.
Alors, Philippine, qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, on va écouter Docteur Renaud, Mister Renard de Renaud.
Ah ben voilà, un type qui a jamais bu, parfait.
Ouais.
Comme il y a eu 15 bourgs et 15 parts, il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault, Mister Renard. Un sacré soifard, Renaud est sobre comme un moineau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud s'efforce, c'est son boulot d'écrire de jolies histoires pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir. À la pointe de son stylo, le Renard n'a que les gros mots. La parano et le cafard lui inspirent que les idées noires. Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud souffre de tous les maux qui
qui accable ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos, des injustices les plus notoires. Renard des abusés se marre, se contrefou de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud a choisi la guitare et la poésie et les mots comme des armes un peu dérisoires pour fustiger tous les blaireaux. Renard, c'est son côté anard, crache sur tous les idéaux, se moque du tiers comme une carte, des engagements les plus beaux. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud mérite les bravos, car en amour, et c'est sa gloire, il est tendre comme un agneau, pour une seule et même histoire. Renard se frotte à toutes les peaux, n'a que des aventures d'un soir, avec des canons, des cajots, Renard serait-il un brin d'islam. Docteur Renaud, Mister Renard. Du désespoir qui tombe à 50 ans bientôt, que le renard tôt ou tard prendra le dessus sur Renaud. Aujourd'hui son amour se barre, son bel amour, sa domino, elle quitte le vilain renard, mais aimera toujours Renaud.
Alors maintenant, on va te demander, Serge, est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 4 mars 1947 dans le monde ?
Il n'y a qu'un seul truc intéressant qui s'est passé, c'est ma naissance. Je ne vois pas, à part ça, je ne vois pas le reste. Le monde ne s'est pas arrêté de vivre, je ne sais pas.
Non, ils ont organisé quelque chose pour fêter ça, pour qu'on s'en rappelle.
Alors les Allemands étaient partis de certains temps déjà. Je cherche Donald Trump. Il n'était pas encore là.
Il n'était pas encore né.
Bush non plus, je ne sais pas, je vois pas.
Traité de Dunkerque.
Oh, bon sang de bonsoir. Là, l'émotion, j'ai failli avoir un truc. J'ai failli avoir la horde qui a lâché. C'est quoi le traité de Dunkerque?
C'est les Français et le Royaume-Uni qui se sont promis l'assistance mutuelle. C'est quand même beau, sachant que les Français et les Anglais...
C'est touchant, surtout avec le Brexit actuel. C'est touchant de savoir qu'à l'époque, en 47, ils essayaient d'être copains.
Ben voilà.
Il valait mieux, vu le bordel qu'il y avait eu avant, mais c'est grâce à moi, de toute façon.
Voilà.
C'est pas un hasard. Hein.
Ils sont dit Serge vient au monde.
Papa Galli vient de naître, on devient copains. Voilà. Ben écoute, ça me fait plaisir, ça me touche. Voilà.
Et maintenant, on va revenir sur le thème de l'ouverture d'esprit. Parce que j'adore ce thème-là. Et donc.
C'est ce que disait Pierre Desproges, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer et de remplacer dans les flagrants délires il y a très longtemps. Claude Villers, France Inter, ça, pour les moins de 20 ans, comprends. Eh bien, il y a l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
Ah oui.
Faut pas avoir peur de ça.
Ah, moi, je suis une fan de Desproges. Et d'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit que t'allais le remplacer?
Ben, à l'époque, j'étais un peu un jeune con, ça, j'avais 35 balais, donc Claude Villers était venu me voir jouer en Avignon. Quand je dis un jeune con, c'était énorme, mais je perçois plus la portée de la chose maintenant que sur le moment. On avait un spectacle qui s'appelait Plus la peine de frimer, chanson de Bill Durham à l'époque. J'avais fait un spectacle qui avait tourné partout, on avait 650 représentations, on avait même fait l'Olympia à Paris, on a joué de partout. Et les gens étaient venus me voir, et Claude Villers était venu me voir en Avignon, on a dit je vais vous aider. Et quand Pierre Desproges, pouvait pas être là, etc. Il demandait de le remplacer. Donc j'étais dans les flagrants délires à Paris, en train de remplacer Pierre Desproges quand même avec Louis Rigaud. Donc maintenant, je me rends compte de l'énormité de la chose quand même. Sur le moment, j'étais, ça a cartonné d'ailleurs, mais j'étais dans l'action, dans le feu de l'action. Donc, j'avais pas le recul nécessaire, en fait.
C'est un bon souvenir, alors.
Ah ben, Claude Villers, c'est un homme que j'adore tendrement. Je sais qu'il est toujours de ce monde, Claude. Bon, voilà, un mec extraordinaire. Avec lui, on a failli passer des caps que le hasard et la vie nous ont pas fait passer. On pourra en parler. C'est pas comme on dit. Bon, ben, bref, le succès, c'est le hasard aussi. C'est pas que le talent, c'est le hasard. On a failli signer pour la télévision une chose qui, en fait, a été signée par Collaro. Malheureusement, je dirais presque, parce que Collaro, c'était un peu le beauf du coin, Claude Villers devait signer. Mmh. Si Claude avait signé, on était avec lui pendant la télé, pendant 10 ans. Quoi. Bon, ouais. Bref, bon. Non, c'est quelque chose de très émouvant. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Desproges, bien évidemment, avec qui on avait une osmose. Bon, c'est ma famille. Voilà. Ces gens-là font partie de ma famille. Coluche, Desproges, tout ça. Mmh. Une famille de cœur, hein, je veux dire. Bon, voilà, hein.
Oui.
Malheureusement, ils ne sont plus là, ni l'un ni l'autre. Mais je reviens toujours au truc, Trump est toujours vivant.
D'accord.
Ça compense un peu.
Bon, on va parler de Frank Zappa qui a dit « Un esprit est comme un parachute, il ne fonctionne pas s'il n'est pas ouvert.
» C'est fabuleux, c'est une belle phrase, oui. C'est pas extraordinaire. Effectivement, mais je crois que c'est pas s'il n'a pas sorti un truc comme ça d'épaule aussi. Si quand t'as pas de truc, tu t'écrases comme une merde, enfin un truc comme ça, je sais pas quoi.
Ouais.
Oui, c'est ça, mais lui, il a des proches, je crois qu'il l'a dit aussi, mais il a changé la phrase de Zappa. Il a dit, je crois qu'il y a un truc comme ça, le parachute, c'est comme l'esprit, ça t'en a pas, quand tu tombes, tu te pètes la gueule. Enfin, je me souviens plus de la phrase exactement, ça tombe comme ça. Bah, c'est une belle phrase. Mm. C'est effectivement le problème, j'ai pas envie de parler de... Parce que quand on parle de ces choses-là, on a l'impression de s'immiscer, nous, comme gens intelligents ayant de l'esprit. Donc, c'est toujours vachement gênant par rapport à ceux qui nous écoutent. Il y a forcément des gens qui vont dire, mais oh, tu te prends pour qui? Voilà. Alors, je répète ce que je viens de dire il y a tout à l'heure. Je viens de dire, moi, j'accepte que les gens me traitent de con. Je veux dire, d'ailleurs, ça arrive dans mon métier d'homme public. Ça fait bientôt 48 ans que je suis sur scène. Donc, je veux dire, c'est évident que des gens nous adorent, d'autres moins. Donc, j'accepte d'être le con de l'autre, mais ma liberté, à moi, m'autorise à dire qu'effectivement, il n'y a pas sur Terre que des gens qui ont l'esprit ouvert. On ne peut pas dire ça.
Non.
Si on dit ça, c'est de la démagogie. Donc on part dans autre chose, dans du mensonge. Il y a forcément des gens qui ont l'esprit obtus, fermé. C'est ce que j'appelle les cerveaux en polyuréthane. C'est-à-dire qu'ils ont des cerveaux moitié polyuréthane, moitié vrai cerveau. Donc ça fonctionne, ça fonctionne un petit peu différemment. Quoi. Mais ça existe. Les politiques ne peuvent pas le dire parce qu'on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas politiquement correct de dire ça. Mais bon, comme on dit dans la région, disons-y.
Oui.
disons-y donc.
Et est-ce que tu penses aussi que le paradoxe, c'est le coup de pied au cul au préjugé ?
Le coup de pied au cul au préjugé, je veux dire, c'est la base de la vie. Enfin, il me semble, c'est pas un paradoxe, ça. C'est quoi ?
Eh ben, en fait, les paradoxes, c'est quand tu dis on a beau dire, c'est parfois le contraire, ce genre de choses.
Pardon.
Manger pour ne rien dire, négocier en vain, VAIN.
Oui, on a beau dire, c'est parfois le contraire. Mais c'est le doute. C'est-à-dire, je viens de dire tout à l'heure. Les titres de mes spectacles sont souvent même la présentation de mon doute, entre guillemets, du côté agnostique de ma vie. C'est-à-dire qu'après, le coup de pied au préjugé, c'est la base de l'existence. Enfin, je veux dire, quand on voit... Enfin, je n'ai pas trop envie de parler, je te l'ai dit, politique ou vie sociale, parce que je crois que chacun vit comme il veut, etc. Je m'en fous. Mais enfin, moi, je suis pour une ouverture d'esprit. Je suis effectivement pour que chacun puisse choisir ce qu'il fait de son corps, de sa vie. Donc, je suis pour la liberté, pour l'intelligence et pour l'humour. Alors, putain, le parti qui défend la liberté, l'intelligence et l'humour, je veux bien prendre ma carte, mais je ne sais pas.
Oui, on a failli avoir Coluche, mais ça s'est passé.
Voilà, mais j'ai la carte d'aucun parti à cause de cette phrase-là. Je viens de dire donc... je suis pour la liberté de tout le monde. Je suis pour effectivement qu'une femme puisse choisir ce qu'elle fait de son corps. Si elle a envie d'avorter, elle avorte. Je suis pour que les gens puissent se marier, quelle que soit leur option. Je suis pour toutes ces choses-là. On appelle ça l'ouverture d'esprit, qu'on appelle ça effectivement. Mmh. Bon. Et après les autres, ils amènent d'autres choses qui sont la morale religieuse. Mais pourquoi pas, s'ils ont besoin, je l'ai dit tout à l'heure, de ces béquilles pour avancer dans l'existence. Moi, je leur en veux pas, je les aime également. Je suis pas le Christ, hein, mais j'aime pas mal de gens, à part une petite discourte quand même. Bon, je veux dire, la religion, par exemple, c'est un médicament pour moi. Donc, si on l'utilise à petite dose homéopathique, c'est vachement bon pour la vie. Si on l'utilise à haute dose, ça devient un poison. C'est-à-dire que dans l'homéopathie, il y a justement des poisons, mais à dose infinitésimale. Donc, si on monte à haute dose, eh bien voilà, si les gens ont besoin de croire d'être sûr de quelque chose pour survivre, eh ben, tant mieux qu'ils le fassent. Mais qu'ils n'empêchent pas les autres de penser autrement. Attention.
Et est-ce que tu es comme des proches? Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout?
Oui, il a dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors, moi, je m'auto-censure un peu, je reconnais. Je suis obligé de reconnaître. Je fais de la radio depuis presque 20 ans maintenant. Si je rajoute Claude Villers, passé par 50 radios différentes, mais pour la dernière, en tout cas, c'est 4-5. Et c'est France Bleu Isère, la dernière en date, bien sûr, mais ça fait quand même 18 ans que j'y suis. On m'a dit, Johnny, carte blanche. C'est mon métier, c'est pas ça, c'est le théâtre. Donc, elle a compris que si vraiment... On m'emmerdait vraiment, je me casse, je dis au bout d'un moment. Quoi. Bon. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais après, je m'auto-censure un peu, je le reconnais. Déjà, je viens de dire beaucoup de choses là, sur Radio Couleur Chartreuse. Honnêtement, hein, je viens de dire beaucoup de choses parce que je ne vais pas si loin d'habitude dans les discussions même. Parce que je respecte ce que les autres... Je suis pour la liberté. Donc, je respecte ce que les autres pensent à partir du moment où la liberté s'arrête ou celle de l'autre commence.
Oui, voilà.
Hein, on connaît la phrase. Donc, chacun, à partir du moment où chacun dit non, moi, je pense le contraire. Je respecte. Mais par contre, tu penses le contraire chez toi. On est d'accord. Tu m'obliges pas de penser comme toi. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, j'en parle moyennement. Mais d'ailleurs, je parle. Il y avait une question précise ou pas? Je ne sais même plus. Quelle était la question?
Si on pouvait rire de tout.
Ah, voilà, c'est ça. Pardon, j'avais l'impression qu'on était parti tellement loin. Alors, je crois que logiquement, oui. Moi, dans ma vie privée. Je parle de la mort, de la maladie, je ris sur la maladie, la mort, etc. Ça, oui, je peux. Je crois même que c'est un exutoire. Quand je suis dans un domaine public, je pense que je m'auto-censure parfois pour ne pas choquer certaines personnes. J'ai pas envie. Je ne le faisais pas quand j'avais 35 ans. J'ai pas envie de le faire maintenant. Voilà. Dans mes spectacles, dans mon prochain spectacle, il y a un curé. On va parler religion, mais d'une façon gentille, amusante, comme ça, un peu péponne, donc Camillo Péponne, quoi. Bon. Mais. J'ai pas envie de faire d'avoir la science infuse, de faire l'artiste qui sait, qui dit gravement des choses et qui indique aux autres ce qu'il faut faire.
Voilà.
J'ai pas du tout envie de ça. Donc je m'auto-censure un tout petit peu sur effectivement ce qui est politique, religieux. J'en parle rarement.
Et dans toutes tes différentes casquettes, alors il y a metteur en scène, comédien, acteur de cinéma, tu as fait simplement les voix pour Astérix.
Oui,
qu'est-ce que tu préfères?
Radio, metteur en scène, ouais. En fait des choses.
Tu préfères quoi?
Directeur de théâtre.
Oui.
Ah non, mon métier de base, c'est comédien. Mon métier
ouais,
de base, c'est comédien.
C'est le théâtre.
Si je devais une carte de visite, comme font les gens, tu sais, avec Marc, toute la machin, mais ça va gagner. Comédien, ça c'est mon métier, c'est mon métier. Après, il y aurait peut-être, dialoguiste, on va dire. Plus, maintenant, je me revendique comme dialoguiste. Ça fait commencer à faire, j'ai écrit 68 pièces quand même. Bon, j'ai des dialogues de pas mal de courts-métrages comme ça, donc je pense là quand même, dialoguiste, c'est devenu mon métier, vraiment. Et directeur d'acteur ensuite, dans l'ordre chronologique. Je fais ça depuis 48 ans, donc je peux commencer à en parler. J'ai fini mon stage,
oui.
Donc je peux commencer à en parler. Mais au début, c'est comédien. Mon métier de base, c'est comédien. Après, je suis un comédien qui a pris une guitare quand il avait 16 ans, qui chante, qui a la chance de pouvoir chantonner, on va dire, avec un orchestre, comme je l'ai fait à la Maison de la Culture récemment. Je vais le refaire le 30 novembre. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui veulent me voir, dans la grande salle, le 30 novembre, Maison de la Culture. On refait le spectacle qui s'intitule Papagali chante, mais cause toujours, ça se voit d'ailleurs, ça s'entend.
Oui.
Où je vais chanter un petit peu, voilà, du rock'n'roll, enfin, des tas de choses différentes. Donc je suis très éclectique dans mes goûts et dans mes envies. Mais à la base, je suis un acteur. Alors après, acteur de cinéma, de télévision ou de théâtre, effectivement, bon, la technique n'est pas tout à fait la même, mais le principe, c'est d'interpréter quelque chose. Bon, donc voilà, j'ai écrit 68 pièces, donc je ne peux pas dire que je ne suis pas un auteur de... Et j'ai écrit, je ne sais pas combien, 4500 billets de même plus si je rajoute les flagrants délires, je vais en être à 500, à 5000 billets de radio, donc je ne peux pas dire. Mais après, oui, bon, ma base, c'est comédien. Mais dialoguiste, j'aime bien aussi. Maintenant, j'écris, je suis quand même un artisan qui écrit la plupart. J'ai joué dans des théâtres de répertoire, j'ai fait le Molière, Shakespeare, Fedot, tout ça, mais... comme mes gammes, mais j'aime bien être artisan, j'aime bien être un pizzaïolo, j'aime bien fabriquer ma pizza. Donc là, je suis en train de finir d'écrire, j'ai fini d'écrire le prochain spectacle, qui va sortir en octobre, je travaille déjà sur le spectacle qu'on va faire à la Maison de la Culture fin 2020. Et là, on tourne actuellement avec un autre spectacle, je viens de faire le summum il y a 3 jours avec un autre solo encore, Donc là, je suis sur 4 spectacles différents en même temps. Quoi. Bon.
Ouais.
Donc j'ai la gourmandise de ça. Ce qu'on vient de faire au sommet, il y a 3-4 jours, pour fêter les 35 ans de France Bleu Isère, il y avait 2400 personnes, c'est phénoménal. Voilà, c'était un solo, un stand-up. Donc je fais des styles différents également de travail. Ce que tout le monde ne fait pas, c'est un moment de pur bonheur, de pur... Après, de temps en temps, jouer un Fedo, Shakespeare, Molière, ou Briseville, j'avais joué une pièce qui s'appelle Le Souper. C'est un autre plaisir. J'aime l'éclectisme de mes plaisirs. Je suis un gourmand, donc je suis un gourmand, donc je goûte un peu de tout. Bonsoir.
Et est-ce qu'il y a un rôle que tu refuserais de jouer ?
Alors, je suis pas...
À part Donald Trump. Hein.
Oui, genre, ben ça, je refuse. Oh non, ça dépend. Si c'est pour en faire un pastiche, je veux bien jouer.
Ah oui,
jouer. Oui, yes. Yes, je peux faire. Mais la radio, ça passe pas. Je viens de faire la bouche de Donald Trump, mais ouais, ça passe pas du tout à la radio. C'est America great again. Yeah. Bon, enfin, bref, big fat again. C'est pas pareil pour ceux qui parlent anglais. Bon, voilà. Donc, il y a un truc que je suis un comment dire. Je suis un épicurien, un peu rabelaisien. Donc, je peux être très très, mais assez pudique, bizarrement. Donc je pense que je me sens... Le jour, j'entendais une interview de Lino Ventura, qui est un garçon que j'aimais beaucoup. Je veux dire, je ne suis pas de sa génération, il ne faut pas qu'il connaisse, je suis la génération des enfants, quand même, arrêtons.
Oui, tout à fait.
Mais je vois ce type, il dit, voilà, je ne pense pas que j'aurais pu faire du porno, je ne sais pas quoi, par exemple. Non, mais je fais un raccourci, là.
Hein, oui.
Je connais des potes qui m'ont fait, d'ailleurs. Qui
Depardieu, par exemple.
Depardieu, il s'en fout complètement. Mais j'ai des potes plus proches que vous ne connaissez pas, sur mes célèbres, mais qui en ont fait. Donc, des trucs comme ça, il y a une espèce de pudeur. Et puis surtout, je sais énormément, je connais énormément, pardon, la frontière qu'il y a entre le drôle et le ridicule. Donc voilà, là, et on marche sur une lame de rasoir en général. L'humour et le ridicule, ça peut être un cousinage, faut faire gaffe.
Oui, tout à fait.
Faut faire gaffe. Donc quand je suis pas à l'aise dans quelque chose, quand je me sens ridicule entre guillemets, je le fais pas, j'évite de le faire. On me propose des rôles de court-métrage, de moyen-métrage, surtout, bon là, je veux dire, en permanence, si presque, j'en ai 10 en cours, j'en refuse les 3/4 parce que des fois j'ai pas le temps, mais surtout aussi parce que, voilà, je peux pas dire aux gens qui m'envoient le truc, écoute,
ouais, si on te propose le rôle de Tarzan, truc, tu dis non.
Moi en slip accroché à une liane,
ouais.
Attends, je réfléchis 2 secondes. Ça dépend qui fait Chita.
Bon, on va faire une pause musicale. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on écoute, Philippe?
Sinon, on va écouter Il Tempo Se Ne Va de Adriano Celentano.
Celentano, bravo.
Exactement,
dai, forza,
voilà.
Celentano, Adriano, Il Tempo Se Ne Va.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. La sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima.
Le calzettoni, magari ce l'hai. Qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, e me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze avete appreso già il posto dei calzettoni.
Maintenant, on va parler cinéma avec Philippine qui a plein de questions à poser à Serge.
Attention, plein de réponses vont arriver.
On va parler de Mais il va où le monde, donc ton premier film réalisé en 2011. Donc on t'y retrouve dans le rôle de Aimé Maudru. Et alors, comment s'est passé le tournage dans le massif du Trièves?
Alors, il faut expliquer, c'est un long métrage que j'ai réalisé à la demande insistante de copains, de producteurs. Bon, après, c'est un long métrage, c'était pas le budget Star Wars, on a bien compris. Hein. On avait la moitié. Non, je déconne, on avait moins. On avait moins. Donc, c'était une chose artisanale qui était faite dans des conditions, comment dire, de façon professionnelle, mais artisanalement, financièrement, évidemment, parce que les budgets de films actuellement, ça fait dresser les cheveux sur la tête, hein, si on veut vraiment. On a tourné ça en quatre semaines, ce qui est phénoménal. Tous les films se tournent en 2 mois, bon. Même parfois 3, 6 selon les films. Bon. Mais le souvenir est merveilleux parce que, alors, à l'époque, je faisais 110 kilos justement. C'était peut-être, je compensais un peu parce que là, je suis quand même l'auteur du film, réalisateur, l'acteur, directeur d'acteur. Donc, dès qu'on cumule 4 fonctions, en général, il y a un petit stress qui se crée. Donc, on a tendance à compenser un petit peu.
À manger, à boire.
Quand je dis compenser, c'est en un seul mot, on a bien compris. Donc ça s'est passé merveilleusement dans les décors merveilleux du Trièves, dans les Dolomites dauphinoises, puisqu'il y a quand même, au-dessus du Trièves, on appelle ça les Dolomites, parce que ça ressemble aux Dolomites italiennes, etc. Bref, bon. Donc on a tourné parmi des gens extraordinaires, et également certaines personnes dans certains endroits où on me disait, quand des fois on me dit tes personnages dauphinois quand même, ils sont un peu excessifs, etc. Je crois que les gars se baladent pas assez dans la campagne dauphinoise pour voir qu'ils existent vraiment. Donc ça, c'est un très beau souvenir.
Et alors, donc, ceux qui n'auraient pas encore vu le film, donc, c'est l'histoire de la famille Maudru, de petits agriculteurs de montagne en Dauphiné, donc, dont l'exploitation est condamnée à disparaître, ou de moins qui luttent pour survivre. La faute à la mondialisation qui mondialise, comme le dit Audrey Maudru, donc vous, Serge. Et les marges de la grande surface, le lait vendu à perte et fracas et autres calamités financières font craquer de toutes parts ce mode de vie à l'ancienne. Alors, ce film raconte avec humour et tristesse la ruralité actuelle, mais pas que. Alors, quel est le message vraiment derrière cette comédie?
Oh ben moi, c'est d'abord la tendresse que j'ai pour les petits paysans d'après-guerre. Ma famille et la famille de ma femme en font partie, en faisaient partie du côté, pas italien, mais du côté français, mais pour ma femme, du côté français, parce qu'elle n'a pas d'autre origine. Donc, je veux dire, ces petits paysans de l'après-guerre qui ont nourri la France, les petites exploitations, il n'y en a pratiquement plus, ça n'existe plus. Il y en a quelques, encore une ou deux comme ça, des personnes très âgées, mais c'est fini, qui vivaient avec 10 hectares, etc. Bon. Donc, j'ai une grande tendresse pour ces gens-là, une partie de ma famille étaient comme ça, des gens lumineux, qui n'avaient pas l'instruction mais intelligents, ceux que j'ai connus moi en tout cas, plein d'humour, etc., avec leur bleu de chauffe, leur petite mobilette, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir une voiture. Donc j'ai toujours beaucoup aimé. Donc les gens souvent croient que je me moque, en fait je ne me moque pas, je parle je fais rire grâce à eux, mais avec la tendresse que j'ai pour ces gens-là. Comme dit le père Maudru au début du film, il dit c'est pas parce que l'exploitation est plus exploitable qu'il faut exploiter le petit exploitant. Donc je veux dire, effectivement, les grosses, j'en parle dans le prochain spectacle, parce qu'il y a une suite suite. Depuis 1994, je fais un spectacle. J'ai fait le film en plus, mais il y a un spectacle tous les 2-3 ans à peu près. Une saga, comme Dallas, mais en version dauphinoise. La famille, on suit. Donc le prochain, ça sera en octobre prochain. Ça va s'appeler La Buvette, le tracteur et le curé. Et ça parle toujours de la survie de ces gens qui essayent de survivre face à la mondialisation et face aux grosses exploitations, la ferme des 1000 vaches, quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est fini, quoi. Il y a de moins en moins de petits, de plus en plus de gros. Et là, je parle pas de moi, bien évidemment. Donc, parce que tu me regardes, c'est pour ça que en parlant de gros, je veux dire.
Pas du tout. Ne soyons pas parano.
Oh, je suis pas parano, je suis italien, du côté de mon père, en plus. Je veux dire, voilà, s'il y a de plus en plus de les petits disparaissent au profit des gros.
D'où ton amour des banquiers.
Des quoi ?
Des banquiers. Le banquier, c'est un personnage. Y est d'ailleurs dans le film.
Oui, alors mon amour.
Non, c'était ironique.
Ah oui, d'accord. J'ai eu peur parce que ça dépend desquels. Alors après, attention, ne soyons pas des magots non plus. Il y a des banquiers qui sont là pour aider et qui aident réellement. Puis il y en a d'autres qui aident pas comme ils devraient aider. Oui, le personnage du banquier, parce que ces petits paysans se trouvent face à un problème de survie pragmatiquement financier, c'est-à-dire que Donc le film parle de ça, mais c'est un prétexte pour parler de l'humanité en général, je crois, et puis surtout aux Dauphinois, mais tu leur mets l'accent en provençal, c'est les mêmes en Provence, c'est les mêmes en Bretagne, c'est les mêmes dans la France entière, voire dans le monde entier. Donc c'est un prétexte, je passe par le Dauphiné parce que ce sont mes origines, mais j'aurais pu même mettre des petits paysans italiens, c'est le même principe.
Et d'ailleurs, je vais t'interrompre, Philippine, parce qu'on est vraiment pris...
Il y a 4h30 qu'on parle.
Par le temps. Non, mais moi, je voulais parler du prochain spectacle qui s'appelle « Pourquoi ? Parce que ?»
Oui.
Qu'on pourra voir le 5 février, donc à 20h, au Grand Angle à Voiron.
Oui.
Et c'est un one-man show, en fait, accompagné.
C'est un one-man show, le seul one-man show au monde où on est deux. Non, c'est-à-dire, je fais 5-6 one-man shows, je viens d'en faire un solo même, c'est Florilège, c'est un Florilège de mes solos. Je fais de temps en temps des solos du stand-up. Et celui-là, j'ai pour changer un peu le style. J'aime bien changer. Donc j'ai mon copain Stéphane Chopec qui joue dans la famille des Dauphinois, qui joue le débile philosophe là, un petit peu, qui joue d'autres choses, qui est un comédien extraordinaire, qui vient me faire la mouche du coche. De temps en temps, il casse ma rythmique, ma logorée, il me casse la logorée, comme dit l'autre, pour venir foutre la merde un petit peu.
Ça doit pas être facile.
Voilà. Pour lui, ça n'a pas été facile au départ, parce que c'est une rythmique pas simple à avoir. Mais donc voilà, c'est un duo, c'est un solo avec quelqu'un d'autre en plus, voilà ce que je veux dire. Donc ça, on joue ça en tournée jusqu'à fin mai. On l'a créé déjà en 2017, à l'octobre 2017. Et je termine la tournée. Et les gens qui veulent dans la région, il y a le Grand Angle de Voiron. Mais je crois que c'est quasiment complet. Donc il faut se dépêcher. Se dépêcher. On doit être à 1400 personnes ou 1300, je ne sais pas combien. Donc il faut se dépêcher. C'est le 5 février. Mais autrement, j'ai plusieurs endroits. Terre aussi. Mais c'est complet, je suis désolé. C'est complet pratiquement partout. Depuis que Michael Jackson est mort, tous les gens se rabattent sur moi. Tous les gens se rabattent sur moi parce que je lui ressemble. Ils croient que je suis Michael Jackson. Ça n'est pas vrai. Arrêtez, je ne suis pas Michael Jackson.
Non, mais c'est dommage parce que c'est un spectacle où il y a beaucoup de questions. Ils te donnent toutes les réponses.
Absolument.
Pourquoi les Italiens chantent du nez, par exemple.
Parce que c'est un bout de spaghetti coincé dans le sinus, j'en suis sûr.
Ah, mais c'est
bon stand, c'est una bella canzone a far piovere amore. Ils chantent comme ça, c'est vrai. Oui.
D'accord, c'est beau. Et là, c'est déjà le moment de se quitter. Alors
I'm so sorry.
Ouais, on va passer un morceau de. C'est Marvin Gaye que tu as envie d'écouter.
Non, Led Zeppelin, c'est même.
Ah oui, Led Zeppelin.
Mais Marvin Gaye aussi, là.
Non, Led Zeppelin, on a
dit. J'ai le choix de trucs géniaux.
Non. Oui, on n'a pas eu le temps de tout écouter. Donc, merci, c'était vraiment un plaisir.
C'est moi qui vous remercie de l'accueil.
Vraiment.
Et de me laisser le temps de parler, c'est merveilleux.
Tu reviens quand tu veux.
Demain, je ne sais pas ce qu'on fait comme émission.
Chiche.
Demain, je suis dans une autre radio, France Blizzard.
Oh mince, c'est qui cela?
Ah ouais, c'est depuis débutant, mais ça va marcher.
Ouais, mais là, je suis sûr que tu as pris goût, tu ne vas plus nous quitter.
D'accord, pas de problème.
Bon, merci beaucoup.
Allez,
ciao, bonne continuation, à bientôt.
Thank you very much, comme on dit en Dauphiné.
Ciao, bye bye.